Le débat du jour.
Loïc Bussière.
C'est une question qui revient invariablement chaque 1er décembre, date de la journée mondiale de lutte contre le sida. Une question qui reste pour l'heure au stade du vœu pieux, en tout cas d'horizon lointain dans le meilleur des cas. Et si on parlait enfin du virus au passé? Et si ce bras de fer entamé il y a plus de 35 ans avec le VIH trouvait enfin une fin heureuse? Pour l'heure, en 2017, la bataille continue avec ses avancées sur le terrain, en premier lieu desquelles une baisse du taux de mortalité due à la maladie, avec ses lourdeurs également, ses effets indésirables comme les différences de traitement entre le Nord et le Sud. Avec une issue proche à court ou à moyen terme, la fin du sida est-elle possible? C'est le sujet du débat de ce vendredi. Et c'est la question que l'on se pose justement avec nos invités. François Berdougo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du conseil d'administration de Médecins du Monde et co-auteur avec Gabriel Girard de « La fin du sida est-elle possible ?» édité chez Textuel Studio. Avec nous également en direct de Genève, Roger Salantunga, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes le directeur du programme à l'ONU SIDA, où est basé justement le programme commun des Nations Unies sur le VIH. François Berdougo, je me tourne tout d'abord vers vous, puisque cette question, la fin du SIDA est-elle possible? Vous la posez vous-même dans le livre que vous co-signez avec Gabriel Girard, ce titre que l'on vous emprunte ce soir. Est-ce que c'est un excès d'optimisme? Est-ce que c'est une utopie ou une forme de provocation?
Alors effectivement, aujourd'hui, on est un peu au milieu du chemin, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 40 millions de personnes, 37 millions de personnes qui vivent avec le virus dans le monde, et seulement la moitié ont accès à un traitement. Pourquoi est-ce qu'on a voulu poser cette question? C'est parce que la fin du sida, c'est devenu ces dernières années le slogan sous la bannière duquel la communauté internationale des acteurs de cette lutte se range, et donc ce slogan dessine un horizon d'extinction de l'épidémie, en tout cas de réduction de l'épidémie dans le siècle à venir, à échéance de une, deux générations. ONU SIDA est beaucoup plus optimiste que nous. Ce que nous avons voulu faire, c'est essayer de réfléchir à ce qu'il y a derrière ce slogan et surtout se demander. Donc ce slogan repose, et cet horizon repose sur la mise en œuvre de stratégies d'accès universel au dépistage, au traitement, dans un contexte où les traitements antirétroviraux préviennent la transmission du virus entre les individus. Et donc finalement, cette fin du SIDA, c'est un espoir de contrôler la dynamique de l'épidémie à l'échelle mondiale. Ce que nous avons voulu dire, ou plutôt interroger, ce sont les conditions politiques, sociales, culturelles, économiques auxquelles on peut espérer atteindre cet objectif.
Roger Salantunga, je me tourne vers vous. Cette fin, justement, du SIDA, cette question que pose François Berdougo, vous estimez, vous, qu'elle est envisageable?
Moi, je peut surtout mesurer le chemin qui a été parcouru. Après, à la fin de mes études en France, je suis rentré au Cameroun comme jeune médecin, et le premier travail que j'ai eu à faire, c'était de mettre en place le tout premier programme de lutte contre le sida au Cameroun au début des années 90, où on a vraiment travaillé dans des conditions difficiles de mobilisation de la société civile, mobilisation des politiques, des services de santé, avec très très peu d'armes pour vraiment lutter contre cette maladie. Et puis quand je vois qu'aujourd'hui on est arrivé à rendre le médicament disponible dans moi je connais beaucoup ce qui se passe dans la région africaine, Afrique australe, Afrique de l'Est et aussi un peu en Afrique de l'Ouest, le chemin parcouru montre que on peut être optimiste. Notre vision à nous à ONU SIDA est de faire en sorte que le SIDA ne soit plus un problème majeur de santé publique à l'horizon 2030 à peu près.
Vous parlez justement de chemin parcouru. Les chiffres aujourd'hui justement vous donnent raison. Le taux de mortalité notamment divisé par deux depuis 2005, c'est le chiffre le plus parlant à votre sens, Roger Salantunga?
Oui, c'est un des chiffres les plus parlants. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que quand les antirétroviraux ont été mis sur le marché, on avait très très peu de possibilités de les avoir. Je travaillais encore au Cameroun à l'époque, j'ai travaillé aussi en Éthiopie. Et puis il y a eu un tournant à une conférence de SIDA qui avait eu lieu à Abidjan, où le président Jean-Jacques Chirac, à l'époque, c'était venu, avait fait un discours sur l'accès aux médicaments. Et puis, il y a eu la mise en place du Fonds mondial. Puis, il y a eu toutes les négociations, tout le travail fait par beaucoup de personnes, y compris notre directeur exécutif ornicida, M. Michel Silibé, pour arriver à un prix acceptable. Je veux, par exemple, vous dire qu'en en Afrique du Sud, dans les années 2000, il y avait moins de 60 personnes sous traitement. Maintenant, il y a 4 millions de personnes sous traitement dans le pays qui a l'épidémie la plus importante. Donc, c'est pour vous donner une idée du chemin parcouru ces dernières années.
Un chemin parcouru qui tente à montrer une forme de contrôle de l'épidémie. François Berdougaud, vous souscrivez justement à ce point de vue, à ce constat de l'UNICIDA ?
Ah oui, absolument. Quand j'ai commencé à militer au début des années 2000, il y avait 300 000 personnes qui avaient accès aux antirétroviraux. On est aujourd'hui à 20 millions. Le chemin parcouru est énorme et c'est évidemment une bonne nouvelle. Il est dû à la mobilisation internationale, à la mobilisation financière, à la construction, comme cela vient d'être dit, d'outils de financement qui ont permis de réaliser des progrès majeurs. Et cet horizon de fin du sida, ce slogan, encore une fois, c'est un horizon mobilisateur potentiellement très très puissant. Nous inscrivons évidemment dans cette dynamique-là avec mon co-auteur Gabriel Gérard. Ce que nous disons, c'est que ces progrès doivent être confirmés, c'est que, encore une fois, la moitié des personnes vivant avec le VIH, un peu moins de la moitié, n'ont toujours pas accès à ces traitements et que pour eux, pour elles, c'est une urgence vitale, que la mobilisation internationale doit se poursuivre, que les pays qui ont été les locomotives de cette lutte, en particulier les États-Unis, la France, mais il y en a d'autres, doivent maintenir et en fait accroître leur mobilisation, notamment financière, parce que finalement, ce qui est très très optimisant dans cette perspective de contrôle de l'épidémie, c'est qu'on a effectivement un horizon. Et donc, on sait que si on investit aujourd'hui de façon très conséquente, on a des chances à échéance proche, en fait, quelques décennies, ce qui serait très peu de choses, de casser la dynamique de cette épidémie. Et c'est évidemment ce que nous voulons tous. Donc, le message fort, c'est il faut, et d'ailleurs, le message fort, y compris pour les gouvernements des pays les plus touchés, c'est il faut investir maintenant, massivement, d'abord pour sauver des vies, évidemment, c'est quand même la première préoccupation, et en plus pour arrêter la propagation de ce virus, et on peut le faire.
Vous parlez de la mobilisation financière justement des pays qui ont été à la pointe de la lutte contre le sida. Vous venez de citer l'Amérique, les États-Unis de Donald Trump. Est-ce que vous avez le sentiment justement qu'ils vont aller dans le sens d'une mobilisation financière constante ou voire en augmentation ?
C'est-à-dire qu'il y a je vais pas vous cacher, qu'il y a une crainte partagée par les activistes américains, les activistes internationaux, une crainte sur le positionnement plus global de l'administration Trump sur les questions multilatérales, sur les questions de développement humain et de santé. Bon, on l'a vu sur l'environnement, c'est vrai que les premiers signes envoyés n'ont pas été très... enfin, ne nous ont pas rassurés. Voilà, nos camarades américains disent qu'ils ont un peu peur, donc on a envie de dire, président Trump, c'est maintenant qu'il faut agir, en fait. C'est maintenant qu'il faut agir si on veut éviter que cette épidémie continue à dévaster des pays entiers. Donc voilà, c'est on a peur. Après, la peur n'évite pas le danger. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de mobiliser les membres du Congrès, les membres de l'administration, la société civile américaine, évidemment, qui se mobilisent d'ailleurs, hein.
Roger Salantunga, justement, cette question des États-Unis, acteur majeur dans la lutte contre le sida, c'est une question cardinale chez vous, à ONU-SIDA ?
Oui, je crois qu'on va toujours avoir besoin des États-Unis comme acteur majeur. Actuellement, d'ailleurs, le programme américain de soutien en Afrique est un des principaux programmes pour l'accès aux médicaments des personnes qui en ont besoin en Afrique. Je voulais juste revenir un peu sur le fait que les progrès qu'on a vus jusqu'à présent restent quand même fragiles, d'où l'importance de votre question. Il faut que la mobilisation pour avoir des ressources continue. Si on voit, par exemple, les pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, il y a pour l'instant que à peu près 35% de personnes qui ont accès aux médicaments, comparé à 60% en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Et puis si vous prenez les pays d'Europe de l'Est par exemple, vous voyez que l'accès au traitement ne concerne que 27% des personnes qui devraient avoir accès à ce traitement, et l'épidémie continue. continue de augmenter de plus de 60% dans ces régions d'Europe de l'Est depuis les années 2010. Donc il reste encore énormément de travail, beaucoup de mobilisation à faire de tous les acteurs au niveau politique, la société civile, les services de santé. Nous à ONU SIDA, à travers Michel Sidibé, nous militons actuellement pour qui est à peu près 10 millions de travailleurs communautaires pour la santé en Afrique, pour encore aller plus loin dans l'accès aux médicaments et la vision d'une fin de l'épidémie de sida comme problème de santé publique en Afrique.
François Berdegaud, une réaction justement à ce que vient de dire Roger Salantunga.
Mais je souscris complètement à ses propos, c'est-à-dire j'ai travaillé un an et demi en République démocratique du Congo il y a quelques années, et de fait ce pays fait partie des pays qu'il vient de citer, c'est-à-dire qui sont malheureusement encore à la traîne, si je puis dire, de l'accès au traitement antirétroviraux. C'est vrai qu'il y a des disparités très importantes entre le Rwanda, qui est un pays frontalier, bon, c'est un tout petit pays, mais quand même qui est à 90% de couverture, et la RDC, évidemment, il y a un décalage important. Donc oui, ce qu'on a besoin de faire là, c'est de combler l'écart, si je puis dire. Alors c'est à la fois financier, c'est évidemment un investissement politique aussi, c'est-à-dire la lutte contre le sida nous a appris, s'il en était besoin, que la réponse de santé publique à ces questions et à bien d'autres, résulte d'une volonté politique forte. Après, on se confronte aussi à des difficultés structurelles, c'est-à-dire à la fois en termes d'infrastructures, en termes de systèmes de santé qui peuvent être fragiles. Donc, il faut mener aussi ces combats de front à certains égards, si on veut progresser.
La formule, quelque peu lapidaire, les traitements au nord, les malades au sud, qui a eu cours pendant longtemps. Est-ce que vous pensez que c'est une caricature? Quelle est toujours d'actualité?
Bah, encore une fois, oui, c'est une formule qu'on rappelle dans notre livre, parce que encore une fois, quand on a commencé à militer, c'était un peu la situation quand même. Donc les choses ont changé. Est-ce qu'elle est encore d'actualité? De fait, le taux de couverture entre guillemets en antirétroviraux, il est bien plus important dans ce qu'on appelle le Nord. Après, il faut qu'on s'entende sur ce dont il s'agit, parce que comme ça vient d'être dit, les pays
de l'Est, hein,
d'Europe orientale sont pas vraiment favorisés. Après, on peut aussi dire que dans un pays comme les États-Unis, par exemple, où globalement le taux de couverture santé assurance maladie est faible, enfin il y a des gros trous dans la raquette, si je puis le dire comme ça, à peu près 20% des personnes ne sont pas couvertes, ben, même dans un pays comme les États-Unis, l'horizon de la fin du sida, il est bouché, disons, il y a un obstacle qui est celui de l'accès concrètement aux services de santé, notamment dépistage, traitement et soins durables. Donc il y a aussi des poches de résistance, et là encore, si on développe pas des systèmes de santé d'assurance maladie un peu partout, c'est compliqué d'avancer.
Alors quand on parle de fin du sida, cette question, la fin du sida est-elle possible? L'inconscient collectif, tout au moins en Europe, a tendance à répondre vaccin. Est-ce que c'est une réponse qui est un peu trop binaire, un peu trop simpliste à une question comme celle de la fin du sida, François Berdegaud?
Au fond, c'est logique, et là encore, nous partageons cette vision. Effectivement, on est face à une maladie infectieuse, donc évidemment la réponse classique à une maladie infectieuse, c'est le vaccin. Bon, il se trouve que l'horizon du vaccin, il est pas immédiatement à notre portée. Et il se trouve aussi que, comme je le rappelais en début d'émission, on a non pas un vaccin, mais on a des traitements qui permettent de bloquer la transmission du virus à d'autres individus. Et c'est cet élément-là qui est aujourd'hui la pierre angulaire des stratégies de contrôle de l'épidémie, puisque du coup, délivrer un traitement non seulement permet aux personnes de se maintenir en vie et en bonne santé, mais en plus bloque la transmission. Donc, c'est la réponse de la santé publique aujourd'hui en l'absence de vaccin. Mais le vaccin reste une piste de recherche et elle est très sérieusement suivie, notamment en France, mais dans d'autres pays. Donc, l'espoir n'est pas du tout perdu, parce que évidemment, ce qu'on a besoin aussi, c'est de pouvoir dispenser en population un outil qui permettra de ne pas s'infecter, de ne pas se contaminer.
Roger Salantunga, la fin du sida en endiguant, entre guillemets, justement l'épidémie, elle est plus envisageable que la création, la mise en place d'un vaccin ?
Je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Les traitements actuellement, plus on aura de gens sous traitement, moins on aura de nouvelles infections. Vous pouvez voir que, par exemple, dans ce qui concerne la transmission mère-enfant, elle a été diminuée de beaucoup, elle n'existe pratiquement plus dans les pays du Nord, et dans les pays du Sud, elle a été diminuée de plus de 40%, parce que les mères sont mieux prises en charge. Donc, le traitement est très, très important dans le contrôle de la maladie. Mais je veux aussi revenir sur la prévention. On a relancé récemment une coalition globale pour la prévention. La prévention reste vraiment d'actualité. Quand on voit que dans un pays comme la France, on a encore 6000 nouvelles infections chaque année, la prévention doit retrouver aussi une place très, très importante dans le contrôle de l'épidémie du sida.
Alors cette question justement de la prévention, elle est cardinale. On a beaucoup parlé des moyens, François Berdougo. L'information, la communication, la prévention, c'est un levier essentiel. Si l'on en croit justement une enquête qui est parue cette semaine, l'enquête de l'association Aide, qui dit que près de 9 Français sur 10 considèrent qu'une personne séropositive sous traitement peut vivre comme tout le monde. On se dit que le message, c'est quelque
ne
peu,
peut pas vivre.
Ne peut pas vivre comme tout le monde. On se dit que le message c'est pas un peu perdu en route, quoi.
Ah bah évidemment, cette enquête, une de plus, donne des résultats tout à fait confondant, si je puis dire, déprimant en tout cas, puisque effectivement on se rend compte que le niveau d'information à la fois sur les questions de transmission du VIH, de risque, c'est-à-dire que les idées reçues, les fausses croyances sur la transmission par moustique en buvant dans le verre d'une personne séropositive ou que sais-je encore, ou en embrassant une personne séropositive, alors tout ça persiste à un niveau élevé dans un pays comme la France, qui est quand même un problème, réellement. Et par ailleurs, effectivement, le niveau d'information sur la vie avec le VIH, l'espérance de vie, la qualité de vie avec un traitement est aussi assez faible. Vous venez de le rappeler. Ce qui d'ailleurs constitue aussi probablement une barrière au dépistage en termes individuels, c'est-à-dire que si on se figure et on se représente que vivre avec le VIH que se découvrir séropositif c'est nécessairement signer son arrêt de mort, ça c'est pas très encourageant pour aller se faire dépister, alors même que plus on est dépisté tôt, plus tôt on va être pris en charge et soigné, et meilleure va être sa qualité de vie, son espérance de vie, etc. Donc au contraire, se dépister est à la fois un acte de prévention pour soi-même et pour les autres, et à la fois un acte de prévention, de maintien de bonne santé à long terme si on se découvre séropositif.
Roger Salantunga, cette question justement de la prévention, de l'information sur le VIH, ses modes de transmission, sa réalité, vous avez l'impression que c'est une sorte de puits sans fond.
Ça marche quand on s'y met à fond avec essentiellement l'appui de la société civile. Quand j'étais en Éthiopie, j'étais directeur du bureau ONU-SIDA en Éthiopie pendant 4 ans. J'ai vu que avec les conversations communautaires, la très bonne organisation administrative d'une très vieille administration, on arrivait à avoir de plus en plus de gens qui allaient se faire dépister pour connaître leur statut et commencer leur traitement plus tôt. Je pense que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qu'il faut faire, qu'il faut continuer de faire, avec le complément du traitement, je pense qu'on arrivera à faire quelque chose de positif.
Merci Roger Salantunga, je rappelle que vous êtes directeur du programme à l'ONU-SIDA. Merci également à vous François Berdougo, membre du conseil d'administration de Médecins du Monde. Ce débat touche à sa fin.
Merci.
Il est trop court bien évidemment. Dans